VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 10 minutes, Sahel Plus avec Claire Morin-Gibault, mais tout d'abord le journal. Au Mali, le procès d'Amadou Aya Sanogo, l'ex-chef de la junte militaire, s'ouvre le 30 novembre prochain. Telle est l'annonce faite par le procureur général près la cour d'appel de Bamako. Amadou Aya Sanogo et ses complices sont accusés d'enlèvement de personnes, assassinat et complicité d'assassinat. Ce jugement était très attendu par les parents des victimes et aussi par les proches des putschistes de mars 2012. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Il y a une semaine, les enfants et les femmes des Verrous Rouges étaient devant la presse pour exiger la tenue du procès de Amadou Aya Sanogo et complice. Ses parents se réjouissent de l'annonce faite par le procureur général près la cour d'appel de Bamako. Mamadou Lamine Koulibaly informe l'opinion de l'ouverture le 30 novembre 2016 d'une session d'assises au cours de laquelle sera évoquée l'affaire Amadou Aya Sanogo et plusieurs autres accusé d'enlèvement de personnes, assassinat et complicité. Ce procès se tient 3 ans après la fin des instructions qui ont été menées par le juge Yaya Karambé, lequel n'a plus rien à voir dans la procédure du dossier depuis la fin des enquêtes et auditions, qui lui a permis d'écouter tour à tour les parents des victimes, tout comme les accusés. Le reste du travail revient à la cour d'assises de Bamako, afin de situer chacun sur son sort à l'issue du procès très attendu à Bamako. En tout cas, les Maliens souhaitent que ça ne soit pas un jugement politique. Ils veulent que la loi soit appliquée. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement menace aujourd'hui de révoquer les fonctionnaires grévistes. Décision annoncée après le durcissement de leur mouvement par les fonctionnaires qui avaient arrêté le travail pendant 3 jours. Ces derniers qui dénoncent une nouvelle fois les réductions dans les pensions des retraités et des veuves menacent de reprendre la grève à partir de décembre si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Les explications de Théodore Nyanya Zadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public ivoirien, hier.
Si nos revendications ne sont pas satisfaites, comme c'est le cas au 3e jour de notre grève, parce qu'au lieu de nous appeler à la discussion, c'est plutôt des menaces que nous recevons de la part du gouvernement, des injonctions que nous recevons de la part du gouvernement, alors que nous sommes ouverts à la discussion. Et la grève prend fin aujourd'hui même, jeudi. Si rien n'est fait, nous allons relancer le mouvement, le durcir, le rallonger dans le temps, et cela d'ici le début du mois de décembre.
Théodore Nyanya Zadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public ivoirien. En Mauritanie, les dockers du port de Nouakchott en grève depuis plus d'une semaine pour protester contre une réforme de leurs activités ont repris le travail hier pour faciliter les négociations avec les autorités mauritaniennes. Une trentaine de dockers arrêtés le 7 novembre après des accrochages avec la gendarmerie ont également été libérés en milieu de semaine, a déclaré aujourd'hui à l'AFP un porte-parole des grévistes, Sidna Ould Mohamed. Le mouvement concerne une partie des dockers qui protestent contre le déchargement en ville des conteneurs et non plus au port de Nouakchott, ce qui les prive selon eux d'une substantielle source de revenus. Au Burundi, le journaliste Léon Massengo, directeur de la radio Bonesha FM, a été arrêté pendant quelques heures ce vendredi par les services burundais des renseignements dépendant de la présidence de la République. Il couvrait l'interrogatoire du commandant de la brigade anti-émeute Désiré Ouamaro, incarcéré avec 5 autres Congolais depuis plusieurs jours pour une escroquerie de plusieurs millions de dollars dans un commerce illégal d'or. Les détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Léon Massengo se dirigeait vers le parquet de la cour d'appel à Bujumbura dans le quartier de Rehero quand il a été arrêté par des policiers du service national de renseignement. Pendant plusieurs heures, le directeur AI de la radio Bonesha, qui n'aimait plus depuis mai de l'année dernière au moment du coup d'état manqué, a subi un interrogatoire mais a été relâché par les mêmes services. Léon Massengo se rendait pour suivre l'interrogatoire de l'ancien commandant de la brigade anti-émeute Désiré Ouamahoro au parquet près la cour d'appel de Bujumbura. Le policier Désiré Ouamahoro accusé d'escroquerie par les services policiers compétents, avait été arrêté avec 5 autres personnes de nationalité congolaise il y a 13 jours à l'aéroport international de Bujumbura, où un avion privé avait atterri pour une affaire obscure de minerais d'or. Une somme allant jusqu'à plus de 270 000 dollars américains avait été subtilisée par le groupe. Les mêmes sources indiquent que l'ancien commandant de la brigade anti-émeute qui avait excellé dans l'arrestation des manifestants au troisième mandat du président burundais aurait été transféré à la prison de Bubanza à l'ouest du Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Cour pénale internationale de La Haye, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a de nouveau accusé l'ancien chef de guerre de la RDC, Boston Ntaganda, de tenter de faire dérailler son procès pour crime de guerre en subornant des témoins. Une analyse de 450 conversations téléphoniques révèle l'implication de Ntaganda dans un large projet de perversion de la marche de la justice, a affirmé Mme Bensouda dans un document officiel daté de ce lundi. Cela s'est notamment traduit par la manipulation de témoins potentiel de la défense, obstruction des enquêtes de l'accusation et d'interférence avec les témoins de l'accusation, a-t-elle précisé. Il s'agit d'un nouveau rebondissement dans le procès de Boston Ntaganda qui avait mené en septembre une grève de la fin de 2 semaines pour protester contre ses conditions de détention imposées après des inquiétudes au sujet d'intimidation présumée de témoins. Boston Ntaganda plaide non coupable de 13 chefs de crimes de guerre et 5 chefs de crimes contre l'humanité, dont meurtre, pillage, attaque contre les civils, viols et esclavage sexuel commis par cette troupe en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nous passons maintenant à la politique ici aux États-Unis. Le président élu Donald Trump, en dépit de nombreuses manifestations hostiles dans certaines villes américaines, a une journée chargée ce vendredi, puisqu'il compte préparer des décisions importantes sur l'équipe qui va l'entourer après sa prise de fonction en janvier. Les précisions de John Lindon.
Journée chargée prévue à New York. Je vais bientôt prendre des très importantes décisions sur les personnes qui dirigeront notre gouvernement, a tweeté le milliardaire républicain. Et les spéculations vont bon train. Le nom du général à la retraite Michael Flynn, partisan d'un rapprochement avec la Russie, est avancé pour devenir conseiller à la sécurité nationale. Rudy Giuliani, ancien maire de New York, pourrait hériter de la justice. Jeff Sessions, sénateur de l'Alabama, pourrait prendre la défense ou les affaires étrangères, un département que Newt Gingrich, ancien speaker de la Chambre des représentants, pourrait aussi bien diriger. Kellyanne Conway, sa directrice de campagne, a confirmé avoir accepté un poste dans la future administration. Hier, plusieurs milliers d'opposants ont manifesté dans une dizaine de villes à travers les États-Unis contre l'élection de Trump à la Maison-Blanche. Dans un autre tweet, le président élu s'en est pris aux médias, accusé d'alimenter les tensions.
Cela dit, les Américains musulmans se préparent à vivre sous un nouveau président élu qui avait pendant sa campagne proposé d'interdire l'entrée aux musulmans étrangers à la suite de plusieurs attentats terroristes ici aux États-Unis. Les Américains musulmans sont-ils inquiets, Salwa Jafari?
Pour beaucoup de musulmans résidant à Dearborn, au Michigan, la victoire de Donald Trump est venue comme une surprise.
Trump a mené une campagne ancrée dans le racisme et la bigoterie. Il l'a utilisée pour avoir le soutien des électeurs et nous assistons maintenant au résultat. Et c'est une pensée effrayante.
Pour Abdallah Hamoud, nouvellement élu membre du Congrès, la nuit électorale était remplie d'émotions contradictoires.
C'est un vrai contraste. Pour la première fois dans l'histoire de Dearborn, on a élu un musulman arabo-américain de la première génération. Et à l'échelle de l'État, on soutient Trump et une présidence Trump.
Asha Noor est une activiste au Centre communautaire arabe. Trump à la Maison-Blanche, c'est une image qui ne l'enchante pas.
Cela montre que le racisme et la bigoterie ont prévalu. Cela me montre que je ne vis pas dans une société post-raciale. Et cela me montre que certaines communautés ne sont pas les bienvenues dans cette société.
L'éditeur d'Arab American News, Osama Siblani, affirme que beaucoup d'Américains musulmans ont voté pour Hillary Clinton, mais n'étaient pas vraiment passionnés par sa candidature.
Afghanistan, les talibans ont revendiqué jeudi soir une attaque qui a fait au moins 6 morts contre le consulat allemand de Mazar-i-Sharif dans le nord du pays. en représailles, disent-ils, à la mort de civils dans un bombardement de l'OTAN la semaine dernière à Kunduz, dans le nord-est du pays. L'attaque au camion suicide de très forte puissance a fait 6 morts selon l'hôpital local qui a reçu les corps, 7 selon la police provinciale qui précise que 2 victimes ont été tuées par erreur par les forces allemandes qui les ont confondues avec des assaillants. Par ailleurs, 128 personnes ont été blessées, dont 10 enfants. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.